peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir. Ah mais je t'en prie, à toi de jouer.
Donc on va faire deux émissions sur la Kanaky, sur ce qui se passe là-bas. Ce sont des extraits de l'actualité des luttes. Ils ont la chance d'être sur Paris, donc d'avoir en direct les gens.
Et oui, alors déjà, effectivement, il y a la distance qui est compliquée. Il y a ensuite la difficulté d'avoir accès à des acteurs, parce que, bien évidemment, nous, on peut vous parler de la Kanaky en long, en large et en travers, mais ça ne vaudra jamais...
ces gens-là ont à dire.
Voilà, exactement. Alors, en plus, bon, malheureusement, c'est que, comme on a une distance et une difficulté à avoir des acteurs, et puis, étant donné l'agitation qu'il y a là-bas, qui n'est... loin d'être terminé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque les caméras se sont retirées et on est passé à autre chose. L'actualité rebondissant toujours et toujours, on a mis de côté le conflit en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky. On a donc accès à quelques-uns des représentants plus ou moins officiels du peuple kanak, en tous les cas de sa traduction politique organisée. À savoir deux forces principales, le FLNKS, donc le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui est l'organisation historique qui a été constituée à la fin des années 80, à la fin des années 70, pardon, et au début des années 80, qui regroupe un ensemble d'acteurs politiques et syndicaux et associatifs et religieux, puisque la part de la religion est très importante, en tous les cas dans son empreinte sociale. Les pasteurs les curés font aussi et font surtout de la politique. Hein, faut-il le rappeler, Jean-Marie Tjibaou était un ancien du petit séminaire, et de l'autre côté, Djeboua, donc celui qui a tué Yewene et Tjibaou, était un pasteur. Ça vous donne un peu le
l'ambiance.
Degré, voilà l'ambiance. voilà, pourquoi je dis ça ? Parce que donc la construction de la société kanak, elle se fait aussi par ces biais-là. Et évidemment, de l'autre côté, l'USTKE, qui est, elle, la part, on va dire, sociale et travailleur de ce front de libération du FLNKS, quoi. Donc,
alors, ce qui est important au niveau de la naissance de l'USTKE, c'est les significations des lettres, hein. Union syndicale des travailleurs kanak et exploités. Ils sont obligés à chaque fois de dire et exploités, et en précisant que les kanaks sont exploités de toute façon, mais il n'y a pas que en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi des travailleurs immigrés qui viennent de tout le Pacifique.
C'est Futuna, notamment, d'autres personnes, puisque avec le développement et la colonisation, il y a eu une légère, hein, pas non plus exagéré, mais industrialisation, il y a eu aussi une économie du tourisme et une économie plus ou moins financière, puisque il y a des relais là-haut. Et donc, ça a créé un pôle d'activité économique et d'attrait économique qui a évidemment aspiré la main-d'œuvre potentielle de l'ensemble des îles du Pacifique. Alors, on parle de Maurice, mais pas que, hein, de Wallis et Futuna, mais aussi, on peut imaginer des gens qui sont... alors, assez peu des métros, hein, en fait, hein, parce qu'en général, les métros, ils viennent soit parce qu'ils ont un travail... ça, c'est toute la partie de la fonction publique, soit parce qu'ils ont une compétence obsessive spécifique, une ingénierie, une compétence technologique qui leur permet d'avoir du travail immédiatement, soit parce qu'ils ont soit à la retraite ou soit parce qu'ils ont un intérêt financier à venir. On se déplace rarement dans une colonie ou dans on s'expatrie rarement, comme on dit, si on n'a pas un intérêt ou si on n'a pas une situation sociale déjà bien assise. Hein.
Assise,
ouais. Donc il est assez rare de voir des métros, pour le coup, exploités. Il doit bien y en avoir quelques-uns, hein, j'imagine. Je suis pas
très, très
suis
peu.
Pas
de toute façon, généralement, c'est des cadres, super cadres, en particulier au niveau des entreprises qui extraient le nickel. Tous ces gens-là, c'est là, au niveau des cadres, ce sont tous des gens qui viennent de France, qui sont largement payés, c'est moins que l'on puisse dire.
Et fonction publique, hein, aussi.
Et fonction publique, ouais.
Mais alors, pas fonction publique, il n'y a pas que les profs et EDF, hein, même si c'est ce qui pouvait revenir à l'idée. Donc, on est quand même sur des salaires qui sont 2 à 3 fois plus élevés qu'en métropole, afin... d'attirer évidemment le chaland, mais aussi et surtout puisqu'on est dans une administration coloniale et post-coloniale, énormément de territoriaux, tout un tas de merde pour faire fonctionner l'État français, avoir ces putains de relais coloniaux. Donc on a des gens qui sont à la fois intéressés au niveau du fric que la métropolisation et que la colonisation reste, mais qui aussi un intérêt purement, on va dire, institutionnel, hein, puisque il s'apparente vraiment à cette classe, à cette couche, on va dire, capitalo-bureaucratique, qui a à la fois la thune, mais aussi le pouvoir symbolique et réel et institutionnel.
C'est des colons, hein, c'est clair. Bon.
Alors voilà, donc on
Je pense... Je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Hein, simplement, les accords de Nouméa en 98 avaient décidé...
84 T'as dit 98
c'est pas les accords...
Si, vas-y, je t'en prie, continue.
L'accord de Nouméa en 98, avait été décidé de faire des référendums.
C'est ça.
Trois référendums pour leur donner, là, comment dire... le droit de gérer leurs affaires, ces Kanaks, il fallait que ça se mérite. Hein. Donc il fallait absolument qu'ils accrochent les 50%. Au premier référendum, ils n'en étaient qu'à 43%. Au deuxième référendum, en 2020, ils en étaient à 47%. Et puis en 2021, alors qu'on se sortait tout juste du Covid, eh bien la France leur a imposé un troisième référendum qu'ils ont boycotté. Et pourquoi ils ont boycotté? Parce que tout simplement, le Covid avait fait des dégâts parmi les Kanaks. Il y a eu 300 Kanaks qui ont décédé. Et pour eux, c'est vraiment des trucs pas compréhensibles pour les petits blancs. Pour eux, y avait un problème de deuil. Il n'était pas question qu'ils fassent de la politique et qu'ils mobilisent leurs troupes pour ce troisième référendum. Donc, ils ont boycotté. Mais la France, qui est la puissance coloniale, n'en a rien eu que foutre. Ils se sont frottés les mains en disant « on a gagné ».
Et même s'il y a un intérêt politicien à utiliser ce prétexte, c'est pas grave. Je crois qu'il faut mettre trois points principaux. Alors, c'est une colonie, mais c'est un rêve de colonie, c'est des confettis d'empire. On va utiliser un premier point qui est le droit international. C'est pas forcément notre marotte à nous, mais en tous les cas, quand il y a des gens qui le disent, on peut utiliser cet argument-là. La Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, est un territoire qui est considéré comme un territoire prioritairement à décoloniser par l'Organisation des Nations Unies. Alors c'est
depuis
pas rien. Hein.
Depuis 86.
Ouais, c'est pas rien parce que dans la deuxième partie de l'histoire de l'ONU, avec la montée des pays issus de la colonisation et des problèmes de décolonisation, il y a tout un tas de choses qui ont alimenté le droit international et qui ont permis quelque part de réévaluer, en tous les cas de donner des notions, d'apporter des notions qui nous intéressent. Par exemple, on estime que un peuple occupé a le droit de résister et d'utiliser pour cela la lutte armée et toutes les formes de résistance qu'il estime nécessaires. C'est toujours intéressant quand même de le relever hein, quand on parle de droit international. Bon, la deuxième chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, a été une colonie de peuplement.
Oui, c'est. Oui.
Une ça colonie important. De mission. Alors, dans un premier temps, la colonie de mission, c'est évidemment tout ce qui va être l'évangélisation par la religion. J'en ai parlé un petit peu rapidement.
Oui.
La deuxième, double peuplement. Alors, à la fois, d'un côté, le bagne, avec la déportation à la fois des communards, mais aussi des Algériens. De l'autre, des envois réguliers et massifs. Et la troisième chose qu'on pourrait dire, c'est que cette colonisation n'a jamais été accepté de manière passive par le peuple indigène, par le peuple kanak. À chaque moment, il y a eu des révoltes très importantes. Alors celle qu'on connaît la mieux, qui est la plus célèbre, c'est celle d'Altaï, qui a donné l'occasion d'une chanson de Médine, mais qui est importante. C'est un chef kanak qui a apporté la tête d'un missionnaire au gouvernorat, et que ces révoltes, elles ont été évidemment à chaque fois réprimées dans le sang ou achetées, etc., etc. Mais que, en fait, cette histoire de ça tombe pas de rien. Hein. C'est vraiment un conflit qui dure et qui perdure, quoi. Il est sûr que à l'intérieur de notre espace consensuel, pseudo-démocratique, pardon, mais extrêmement républicain et capitaliste, avoir des gens qui reprennent les armes et qui revendiquent le droit à la libération, c'est quelque chose qui tombe sur les grolles de la bourgeoisie macroniste qui est tout à fait en dehors de l'histoire.
Et le Darmanin qui ne se sent plus pissé.
Qui sont complètement à ce qu'on pouvait, à la limite, reconnaître à la bourgeoisie réactionnaire qui a passé la main depuis quelques années, c'est qu'elle, elle était dans l'histoire. C'est-à-dire que les colons et les colonisés, les choses étaient claires et qu'ils savaient que ça se passait au rapport de force. Mais là, on a des gens qui ne comprennent absolument pas les enjeux, puisqu'ils n'ont aucune épaisseur historique, aucune base sociale, de rien, de rien. Donc forcément, ils pensent qu'ils peuvent régler ça avec quelques Salam Alek et j'allais presque dire des colifichets arrivés avec...
Alors, comme on s'approchait des 50%, et que visiblement il y avait des grandes chances qu'ils arrivent un jour, effectivement la France qui veut garder absolument sa présence là-bas, il n'y a pas que le nickel, il y a aussi sa présence stratégique au niveau militaire, et la France a dit stop, on va changer le code électoral, hein, n'est-ce pas, ceux qui sont les colons qui sont arrivés depuis 10 ans pourront voter, évidemment ça n'était pas du tout prévu comme ça au départ. Alors bon, que dire, que faire, si ce n'est que ce Macron leur dit maintenant « Ah, je ne vais pas passer en force ». Sauf que les Kanaks ne comprennent pas ça. Les Kanaks, d'ailleurs, ce qui est un truc à comprendre, je pense que dans les interviews qu'on va écouter, les Kanaks ont un rythme de vie qui n'a rien à voir avec l'Occident. Quand il y a un congrès du FNLKS, ce congrès, ça dure des jours et des jours. Ça peut durer une semaine.
Le rapport à la terre est différent. Le rapport au temps est différent. Le rapport à l'organisation sociale, à la parole donnée est différente. On est sur un fonctionnement clanique. C'est-à-dire que y a une forme de délégation sur soit des chefs de famille ou soit des représentants qui sont élus, etc., etc. Ce n'est pas une société occidentale. Elle n'est ni moins bien ni meilleure qu'une autre, mais ce n'est pas une société occidentale. C'est une société polynésienne où effectivement il y a des rites et un des rites, c'est de ce qu'on appelle faire la coutume. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, y a le phénomène de l'hospitalité d'une part, mais il y a toi aussi que tu dois prouver ta bonne foi.
Que tu as des bonnes intentions.
Voilà, ou ta bonne valeur. Alors,
les pauvres canaques, ils ont été trahis X fois par les bonnes intentions des colons. Hein.
Ça, on peut avoir ça aussi, paradoxalement, chez certains berbères, où même si tu viens avec pas grand-chose, tu viens pas les mains vides. Ensuite, on va te laisser une après-midi pour te juger, te jauger même, voir. On va montrer ton cadeau à l'ensemble du reste de la famille, on va voir. Et ensuite, une fois que le test, ou en tous les cas le protocole, on va dire ça, sera passé, alors là, tu feras partie de la famille et tu feras partie. Alors là, l'hospitalité, elle est très forte. Ça, c'est sûr que c'est pas des valeurs qui vont... qui s'entrechoquent avec le capitalisme, hein, l'immédiateté, le oui, non, le peut-être, les choses désintéressées, le fait de prendre son temps et d'arriver au consensus, c'est pas bon. Et puis après, il y a la valeur de la vie, il y a la valeur de la mort aussi, hein, qu'est-ce que ça veut dire risquer et mettre en jeu sa vie, la question de l'individu par rapport au collectif et à la communauté, ça, ce sont des choses qui sont, à mon avis, on n'a pas fait les fiches à Macron. et à mon avis, il n'y a pas grand monde à Sciences Po et à l'ENA qui doit maîtriser ce type de rapport humain. Et donc forcément, ça ne peut pas marcher. Sauf que la chose que, à mon avis, ils n'ont pas compris et n'étaient pas intégrés encore, c'est que ça ne peut pas se passer comme ça.
Non. Et ça ne se passera pas comme ça.
Ça ne se passera pas comme ça, surtout dans une société où les armes... sont en circulation très libre et très importante. On estime que y a quoi, 275 000 personnes ?
270 000.
Ouais, et il y aurait une centaine de milliers d'armes, dont un peu plus de 70% qui ne seraient pas déclarées. Ce qui fait que quand il y a des troubles, forcément, des deux côtés, hein, côté Caldoche comme côté Kanak, la violence, elle est fortement et tout de suite armée. Et on imagine qu'est-ce que ça pourrait donner. On parle de 7 morts quand même, en à peine 10 jours. Et qu'est-ce que ça pourrait donner en métropole ? Et on a certainement, on parle de beaucoup plus, les témoignages qui nous reviennent de gens qui ont des liens, on va dire, directs là-bas, parlent de gens qu'on n'a pas encore retrouvés, etc. Vous voyez, bon, on est déjà extrêmement bavard, mais c'était pour donner un cadre.
Ouais, voilà. Alors on va écouter des extraits de deux émissions de
nos camarades de l'actu des luttes.
L'actualité des luttes. Vous allez entendre, au début, vous allez entendre Rock Aquas, oui. Rock Aquas, qui fait partie de l'USTKE, c'est même l'un des vice-présidents de l'USTKE, qui va vous parler un petit peu de ce qui se passe là-bas et qui donne des explications assez intéressantes.
Derniers mois, plusieurs mobilisations d'ampleur ont eu lieu en Kanaky, et notamment le 13 avril dernier, où c'est plus de 80 000 personnes donc, qui se sont mobilisées en Nouvelle-Calédonie afin de réaffirmer leur demande du retrait du projet de loi sur le dégel du corps électoral, pour réaffirmer aussi la non-reconnaissance du dernier référendum de 2021 sur l'autodétermination et demandant aussi la poursuite de la trajectoire de décolonisation. Afin de mieux comprendre les différents enjeux de cette mobilisation, on est aujourd'hui avec Rock, à qui on va poser quelques questions. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Oui, alors je suis Rock Aquas. Donc moi maintenant, quand je suis rentré en Kanaky, je suis maintenant troisième vice-président de l'USTKE, Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités, chargé de la communication et des relations extérieures. Et je suis aussi coordinateur général au niveau du Parti travailliste, donc un parti indépendantiste. Et à ce titre-là, on est dans le CCAT, donc une cellule de coordination d'action terrain, qui se mobilise effectivement dans la rue pour contester la marche forcée de l'État pour recoloniser le pays. Donc justement, suite à la reconnaissance de l'État du troisième référendum, qui pour nous n'a pas de sens, parce que le peuple colonisé ne s'est pas exprimé. Il a demandé le report. Donc l'État a imposé ce référendum, et puis a mis en place, veut mettre en place un nouvel accord qui recolonise le pays en disant que maintenant on va signer un accord dans la France, un intégrant dans la France. Donc ça, ce sont des éléments qu'on conteste fortement. Et puis, ce faisant, eh bien, il met en place tout un processus de dégel du corps électoral en voulant noyer le peuple kanak par des personnes qui arrivent de la France, principalement de la France, pour recoloniser le pays. Donc ce sont des choses qui, avec le Premier ministre Pierre Messmer à l'époque, qui a vu qu'on était majoritaire dans le pays, il a fait une déclaration, une lettre, pour dire qu'il faut faire venir des gens ici pour minoriser la revendication indépendantiste. Donc, et nous, en 83, on a ouvert notre droit à l'autodétermination à l'ensemble des personnes qui sont arrivées dans notre pays. Donc on a fait ce geste-là. 88, suite aux événements, on a accepté un corps électoral ouvert. Et en 98 encore, avec le dernier accord, l'accord de Nouméa, on a encore réouvert le corps électoral. Donc maintenant, on est minoritaire dans notre pays. On a accepté des gens pendant la période coloniale et même pendant la période du début des années 2000. Et là, on dit ça suffit parce que s'il y a encore plus de personnes, principalement qui arrivent de France, on va perdre d'abord la majorité au niveau des institutions locales. Et perdre la majorité au niveau des institutions locales, ça veut dire qu'on gère plus notre pays. Donc l'État français souhaite mettre au niveau des institutions locales, c'est-à-dire à la tête de nos institutions, des gens à lui. Comme par exemple Madame Baquès, qui était à l'époque présidente d'une province en Kanaky, qui a été choisie par Monsieur Macron pour être dans son gouvernement. Donc il y a un parti pris. Là, au niveau de la commission des lois, il a mis comme rapporteur Monsieur Mesdorf, qui est aussi calédonien et qui est dans l'autre camp. Donc il y a un choix délibéré du gouvernement français de faire en sorte que il faut recoloniser la Kanaky.
Ça implique quoi, ce dégel?
Alors, dans une colonie, et en particulier colonie de peuplement, je vais peut-être citer ce qui se passe par exemple au Sahara occidental avec le Front Polisario. Quand on s'exprime pour sa pleine souveraineté, ça concerne les colonisés. On peut pas poser la question à quelqu'un qui n'est pas colonisé de dire est-ce qu'il faut qu'il s'autodétermine. Donc il y a un peuple colonisé qui a ouvert son droit à un moment donné aux gens qui sont arrivés dans la colonisation. Et maintenant la France, il veut noyer cette revendication de liberté en faisant venir des gens de la métropole. Quand les gens qui viennent de la métropole, non seulement c'est pas des gens qui sont en recherche de manger ni quoi que ce soit, c'est pour coloniser. Et quand ils arrivent sur le pays, ils sont sur des postes à responsabilité, ce sont pas des pauvres. Ce n'est pas des gens qui quittent parce qu'il y a la guerre chez eux. La France, à mon sens, il n'y a pas la guerre ici. C'est un choix qui est fait délibérément et qui arrive là-bas. Il n'y a pas de pauvres. Des Français qui arrivent ne sont pas pauvres. Ils occupent des postes à responsabilité, justement. Donc c'est un choix de peuplement, de colonisation de peuplement encore une nouvelle fois et recolonisé par ce qu'ils appellent la démocratie. Donc voilà. Donc c'est un choix délibéré de démocratie. Donc quand on ouvre le corps électoral, ça fait plus de gens qui votent et ça fait plus de gens qui votent pour la France. Donc pour nous, il est hors de question parce qu'il y a un peuple qui a besoin de sa dignité d'accéder à la pleine souveraineté.
Donc au-delà même de cette question justement du dégel du corps électoral qui donc, si je comprends bien, facilite les conditions par lesquelles on peut voter, notamment sur les questions d'autodétermination, à des personnes qui ne sont pas kanak et qui donc viennent de l'Hexagone. Vous mettez en avant aussi dans le texte que vous distribuiez donc le 1er mai, hein, lorsque on s'est rencontrés dans la rue, que y avait par ailleurs que l'accord de Nouméa était pas complètement respecté encore aujourd'hui et qu'il n'avait pas était mise en place en réalité selon l'intégralité des conditions. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et nous dire déjà où est-ce qu'on en était avant même que la France décide d'aller encore plus loin dans son processus de recolonisation?
Alors, la France n'a jamais été impartiale. La France, elle veut garder ses colonies. Avant l'accord de Nouméa, et même après, le peuple kanak a fait des concessions. Donc, on a autorisé des gens à venir. On n'a jamais exclu personne. Mais l'intérêt pour nous, c'est que ce pays accède à l'indépendance. Et l'intérêt pour la France, c'est de garder les colonies. Il y a un certain, comment il s'appelle, Charles de Gaulle qui avait dit une fois, la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc c'est ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et si nous, au niveau des Outre-mer, on quitte le giron français, ben la France, au niveau de la en termes de puissance maritime, elle dégringole au niveau de la, elle est deuxième derrière la Russie en ce moment. Si tout l'Outre-mer sort de la France, elle se retrouve 480e ou quelque chose comme ça. Donc elle perd aussi. C'est comme, donc la France, elle a jamais été impartiale sur les questions coloniales. Pour un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité, démocratie et j'en passe, c'est que même l'accord de Nouméa, signé, la France, elle freine les transferts de compétences. On a toujours dit que l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation, en ce sens qu'elle transfère petit à petit les compétences, et à la veille du référendum, ne resteront que les compétences régaliennes. Or, il reste encore des compétences à l'État qu'il n'a pas transférées. Ce sont les compétences régaliennes, normalement, qui sont transférées dès qu'on gagne le référendum. Il y a encore des compétences, je parle de l'audiovisuel, je parle de la recherche, je parle de l'enseignement, par exemple. Et l'enseignement et la recherche, je parle de la fiscalité, en général, c'est que ce sont des outils de colonisation. L'enseignement, on va nos ancêtres les Gaulois, voilà, on va bien nous manipuler la tête. La fiscalité, parce que ça rapporte aussi beaucoup, même s'il y a une fiscalité locale, mais tout ce qui est commerce extérieur, c'est la France, exportation du nickel, etc., donc les grandes richesses. Je ne parle pas de la France-Afrique, c'est exactement pareil chez nous, la France-Océanie. D'ailleurs, on a un front là-bas qui s'appelle le franc CFP, donc ça rappelle beaucoup le franc CFA. Et notre franc CFP est fabriqué dans le sud, là, même endroit que le franc CFA. Donc on est vraiment CFA qui s'appelle Colonie Française d'Afrique. Nous, CFP, Colonie Française du Pacifique. Donc ce front-là, il est encore chez nous. Donc voilà. Et comment ça s'appelle? La France, c'est la... L'accord de Nouméa doit se terminer avec les trois référendums. Le dernier référendum, on a refusé d'y participer parce qu'on a une culture chez nous. Il y a eu plus de 300 morts sur 100 000 habitants des Kanaks. 300 morts, c'est énorme quand on parle de pourcentage. Donc il fallait qu'on fasse les deuils juste après la fin du Covid. Parce que les corps étaient stockés quelque part. Donc on ne pouvait pas faire campagne pour le référendum. Donc on a demandé de reporter d'un an. Et il y a un certain ministre français qui s'appelle Le Cornu, qui a dit une fois, en démocratie, les élections ont lieu à l'heure. Et là, il vient juste de nous reporter nos élections locales provinciales en début d'année, juste avant le projet de loi constitutionnel. Il le reporte. Donc, d'un côté, on a lieu à l'heure. Quand ça les arrange, ça n'a pas lieu à l'heure. Donc, du coup, on le conteste, le dernier référendum. Donc, pour nous, le dernier référendum n'a pas eu lieu. Donc, l'accord de Nouméa n'est pas terminé. Donc, ils veulent maintenant nous forcer sur un nouvel accord. D'abord, en ouvrant le corps électoral. Comme ça, le nouvel accord, il passe mieux. En intégrant le pays dans la France. Donc, avant de nous imposer un autre accord, ils veulent ouvrir le corps électoral. Comme ça, le nouvel accord va être mieux accepté par une majorité de gens qui arrivent de France. Nous, on n'a pas été... On n'a pas été... On ne nous a pas demandé de donner notre avis pour le dernier référendum. Il l'a imposé. Ce sont les non-colonisés qui ont voté. Il ne va plus nous demander notre avis pour le prochain accord dans la France parce qu'on va être noyés à cause de l'ouverture des corps électoraux.
Alors justement, pour aller un peu plus loin sur cette question, je voulais te demander si tu pouvais revenir finalement sur le contexte social et politique actuel dans le sens de mettre en avant quelque part, qu'est-ce que ça implique au quotidien pour les Kanaks, cette domination hexagonale?
Alors, c'est tant bien parce que donc à l'USTKE, c'est Union syndicale des travailleurs Kanaks et des exploités. C'est pas travailleurs Kanaks exploités, c'est des travailleurs Kanaks et des exploités. Parce qu'on considère que le Kanak, il est déjà exploité. Le fait même d'être colonisé, il est déjà exploité. Et on a intégré les autres communautés qui vivent dans le pays, les autres exploités. Donc le Kanak a toujours été exploité. Et on a un slogan chez nous, c'est la question du rééquilibrage et l'emploi local. La question de l'emploi local, c'est priorité aux gens du pays. Et la question du rééquilibrage, c'est-à-dire arriver de 50-50, c'est l'accès des Kanaks à la formation, à l'intégration dans les entreprises et à la promotion interne dans les entreprises. Donc pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'il y a une exclusion. Il y a une difficulté. Par le fait démocratique, les jeunes Kanaks ont des difficultés à apprendre le français et à avoir comment appeler ça, dans la formation conceptuellement, appréhender les choses parce que c'est dans une langue qui leur est étrangère. Après, il y a l'intégration dans les sociétés. Donc, c'est difficile pour les Kanaks d'accéder, de rentrer dans une entreprise. Et dès qu'ils rentrent dans une entreprise, c'est très difficile pour eux d'avoir, de passer à des postes d'encadrement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est en déficit par rapport à l'équilibrage. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes Kanaks sont dans la rue, sont dans les tribus et n'ont pas accès à des avantages qu'ils auraient dû avoir parce qu'on est un pays riche. Donc, on sort beaucoup du nickel de notre pays. On est le troisième producteur mondial. Et puis quatrième en réserve mondiale du nickel. Maintenant, il y a la question des batteries électriques. Donc, la meilleure ressource en nickel au monde par rapport au taux. Dans les autres pays, c'est un taux beaucoup plus faible par rapport à la terre qui est autour. On a la meilleure qualité du nickel. Donc, on a une certaine richesse, mais on n'en profite pas au niveau de la jeunesse du pays, quoi. Donc voilà. Après, au niveau social, ça concerne se loger, aller au travail, donc les transports. Pour ceux qui ont déjà un travail, manger. Et puis là-bas, on a un niveau de vie qui est, pas un niveau de vie, mais il y a une cherté de la vie qui est à 75% au-dessus par rapport à la métropole, par rapport à la France. Par rapport à la France ou l'Hexagone, c'est beaucoup plus cher là-bas. Et on a un pouvoir d'achat qui est très très faible, donc. On va dire que le SMIC il est autour de 1000 euros avec les prix qui sont à 75-80% plus chers qu'ici, donc que ce soit le pain, le logement, le transport, etc. Donc les gens ils marchent beaucoup pour aller au travail. Ils ont essayé d'avoir un petit jardin pour dans la ville, hein, des petits jardins pour cultiver des tomates, etc., quoi. Donc voilà, niveau social, qui d'hab. Plus de questions peut-être plus précises.
En fait, je m'interrogeais sur aussi la question des services publics, justement, dans leur ensemble, parce que la plupart des choses que tu me racontes, même si c'est pas le même statut, c'est aussi des choses que j'ai entendues autour de la question de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Sur la Guadeloupe, donc beaucoup aussi avec cette question de la jeunesse. Que d'ailleurs on a mis sous couvre-feu, hein, là, vu qu'apparemment c'est la seule réponse de l'Hexagone, hein, quand on fait des barrages et qu'on bloque son territoire, ben l'Hexagone renvoie l'armée, et puis quand les jeunes sont dans la détresse, ben l'Hexagone renvoie l'armée encore, alors qu'on sait que ben y a pas d'hôpitaux, on sait qu'il y a pas l'eau courante partout, on sait que effectivement comme il y a une prime pour les métropolitains qui viennent s'installer, eh bien le niveau de la vie est extrêmement élevé. On sait ce genre de voilà. En ce moment, on nous parle de Mayotte. Pareil, en nous parlant de cette jeunesse qui serait apparemment très dangereuse, mais pareil, on sait qu'il y a pas d'eau. On sait qu'il y a pas le SMIG. On sait que l'accès aux soins est très très difficile. Et donc c'est toujours cette question là. Tu vois, de mettre en avant aussi à quel point il y a une défaillance en plus de cet hexagone au niveau de ce qu'il est censé fournir, c'est-à-dire que tout de même un minimum de services publics face à ce qu'il a comme intérêt lui et qu'il récupère en colonisant ces territoires.
Alors, on est exactement dans le même schéma. Hein. Je disais tout à l'heure, la France colonise. Et elle utilise tous les moyens. Et il y a un élément qui est important, et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans toutes les colonies, hein, au lieu de parler de dom-dom, mais c'est pour moi c'est de vraies colonies, c'est la question de la militarisation. Donc le Cornu est passé chez nous pour installer une base militaire, et il a réouvert des centres à l'époque pour faire des services militaires, il a réouvert ça pour les RSMA, pour les jeunes. Donc du coup, il fait un appel, donc il va dans les écoles faire des appels pour des jeunes qui veulent rentrer dans l'armée. Donc les jeunes qui réussissent pas dans le circuit normal, parce que ça ne correspond pas, ils sont récupérés par l'armée, par le RSMA justement. Donc ils font de la pub pour militariser notre jeunesse, quoi. Et pour nous, c'est très néfaste, parce que non seulement ils sont écartés du système scolaire normal, mais en plus ils sont militarisés au nom de la France, donc... trifouillage de cerveau, Je me souviens de ce qu'a dit Elie Domota une fois. Comment on appelle un pays dont c'est l'armée qui forme ses jeunes, quoi. Ce sont des choses qui ont aussi lieu chez nous et même très fortement. Quand est-ce, il y a un an, le Cornu qui était passé ministre de la Défense est venu poser la première pierre d'une nouvelle base militaire en Kanaky, quoi. Donc peut-être que derrière on va te dire, mais peut-être que c'est l'OTAN aussi un jour qui va débarquer chez nous, quoi. Donc la jeunesse, c'est, on va dire, ils sont écartés de nos parce qu'on a, ce sont des compétences qui sont chez nous, donc écartés du processus actuel de décolonisation pour intégrer une école de formation militaire pour la France, quoi. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la jeunesse. Mais c'est une jeunesse qui est maintenant qui sont très révoltés en ce moment. L'avantage de nos structures indépendantistes, parce que ce sont des structures qui sont cadrées, on peut voir qu'il y a des mots d'ordre et tout ça qui sont respectés. Mais au niveau de la jeunesse, il n'y a pas de structure. Donc c'est une expression populaire d'un ras-le-bol de vivre dans son propre pays et de ne pas avoir les moyens, alors tout en sachant que notre pays a une certaine richesse, quoi.
Un vrai sentiment d'injustice, en réalité. Et ben, peut-être pour finir, sur une touche... tout simplement pour finir, comment est-ce que toi, tu sens cette mobilisation sur le territoire qui en réalité prend, hein, parce que quand même 80 000, quand tu me dis on est 100 000, ça fait beaucoup, hein, quand même. Voilà, comment tu la sens, quelle est l'énergie et un peu vos perspectives peut-être.
Alors c'est vrai, hein, on est 110 000, 120 000 Kanaks, 80 000, ça veut dire qu'il y a une grande majorité de jeunes Kanaks qui sont mobilisés, mais aussi des non-Kanaks. Et c'est ça qui est très important, c'est que dans les 80 000, moi je pense qu'il doit y avoir 60 000 Kanaks ou 50-60, le reste c'était des autres communautés, donc beaucoup qui sont venus des îles du Pacifique, mais aussi des Français, hein, beaucoup de Français aussi qui étaient présents, qui partagent cette lutte anticoloniale. Donc en fait, notre combat, et c'est ce qu'on est venu chercher aussi en France, c'est de l'internationaliser. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est localisé dans la France. Et c'est ce que la France veut nous imposer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec la France. Non, il faut qu'on aille vers l'international, expliquer, parce qu'il y a d'autres peuples qui le vivent aussi, hein, ce contexte colonial. Donc on ouvre, mais c'est par intérêt, mais c'est aussi par affinité avec les autres peuples en lutte aussi. Et donc ces 80 000 là a dépassé les bords des colonisés en fait de la Kanaky. Et ça c'est quand même avec une fierté. On est combien? On est 250, 300 000. On a presque un tiers de notre population qui était dans la rue, quoi. Parce que ça c'est ce qu'on a vu à Nouméa, mais aussi dans d'autres endroits du pays. Donc c'est énorme cette mobilisation. Et là, ce que je voulais dire par rapport à nos mobilisations localement, c'est que le gouvernement français joue avec le feu. Chez nous, c'est une poudrière depuis un certain temps. Là, ils sont en train d'allumer la mèche, là. Donc, il y a des chances que les mobilisations se renforcent. Donc, pour la mobilisation, on va dire, sans blocage et tout. Mais il y a des chances que si le dégel devient effectif, il y a des chances que la mobilisation se renforce. Donc, ce qu'on ressent, ce que je sens aussi ici, c'est que les gens sont très motivés, très déterminés, on se laissera pas faire pour une énième recolonisation de notre pays. C'est ce que je disais souvent, entre processus de décolonisation avec l'accord de Nouméa et la marche forcée de la France pour une recolonisation, à un moment donné, on passe par une phase de rupture. C'est comme si on tourne une roue et on retourne dans l'autre sens. À un moment donné, alors la roue s'arrête. Donc, il y aura une phase de rupture. Et de toute façon, c'est ce qui est recherché peut-être par Macron, parce que c'est quelqu'un qui aime un petit peu la confrontation et qui aime passer en force. Donc, même si on nous dit, oui, la porte est toujours ouverte pour une négociation, mais dans le fond, il a son processus de recolonisation à mettre. Et puis, localement, les choses vont peut-être se compliquer dans les jours à venir.
Eh ben merci beaucoup. On se tiendra au courant. Vous n'hésitez pas. Yeah,
Avec nos fronts en fièvre, avec nos poings en grève et un vacarme d'armes à bâillonner les chiens de garde du palais, avec une étincelle frêle au coin des lèvres sur une mare noire de kérosène, avec des pages pleines du sang séché de nos veines, avec un incendie au cœur et la mémoire de la sueur, avec le talon fier plein de poussière et la musique éclair du revolver quand elle rythme la fuite des pistes sous les jupons de l'institution, avec des torches rallumées au lendemain des massacres et puis les vapeurs âcres qu'exhalent nos plans d'attaque en bouillant dans le cloaque, avec un goût prononcé pour la poésie du fond des mines et un faible avéré pour la nitroglycérine, avec les plans du bâtiment plus les chiffres clés des codes d'accès, avec le ras, avec les dents, avec finesse, avec du temps, avec ou sans l'aide du ciel, mais avec toi, lui et elle, mais avec toi, lui et elle, on frappera, 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 on frappera. Sur ma vie, sur ma tête, que les ports restent à l'abri, je te rassure pour le bain de sang par terre. Comme j'ai bien appris mes leçons de guerre, sur ta patrie on frappera, mes soldats en batterie, stratégiquement sur la SNCF. Quand dans mes rangs la haine s'élève, pour effacer le sourire sur ses lèvres, on frappera, et on frappera de prisonniers, que les volontaires viennent se désigner. Y aura plus de secours, plus de lignes de téléphone, sur les postes de police, postes et télécoms. On frappera, surtout sur la capitale, sur toutes ses fonctions vitales, et on frappera dans le détail. Et on dansera sur les ruines de ces belles vitrines. Et à notre passage, tu pourras compter les victimes. Barricades, barrages, partout sur Paris, partout sur la ville que de la barbarie. Reçu 5 sur 5, on tient le siège d'ici au palais de justice. Et pour ces briseurs de rêves, y'aura pas d'armistice. Dans ces zones sinistrées, appelle tes militaires pour aider les kiss des. On frappera, 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 on frappera. Toujours la main sur le cœur pour palper l'acier, dans la poche intérieure de mon bombardier. On frappera même au sol pour un regard, une parole. La sanction tombe sans discuter une plombe. Pour ce genre de nègre qui pour paraître plus intègre se désintègre, c'est le cas de le dire, pour embrasser le cul de la patronne. Plus rien ne m'étonne, comme des merdes de chiens et pour des miettes de pain. On frappera, on fera la misère pour combler soi-disant notre absence de repères. Pour qu'on en vienne à des méthodes à l'ancienne, en pleine période de vaches maigres, pour qu'on nous lâche du blé, pour qu'on nous lèche les pieds sous la menace d'un ou plusieurs colis suspects. La douce France couche pour de l'oseille et partout en Afrique je ferai courir de bouche à oreille. On frappera, on forcera les serrures des portes blindées et cadenassées de la préfecture, pour qu'enfin les inclars en galère de paplard s'offrent le plus beau des mariages blancs. Pondra les au hasard, mais tout en bazar. Juste pour crever l'écran.
Juste pour crever l'écran.
On frappera, 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 on frappera.
Bon, je crois qu'on doit passer normalement, mais c'est peut-être pas prêt, je ne sais pas, quelqu'un qui fait partie du FNLKS et qui fait partie de l'Union Calédonienne, qui non, est le,
Dominique Fauchy,
l'organisation historique.
Général de l'Union Calédonienne, membre du FNLKS, et qui est un des partis de la mouvance indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Donc, avec mes camarades qui sont venus du pays depuis plus d'une semaine, on est arrivé dans le cadre d'une mission de lobbying auprès des députés avant le passage à l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle pour continuer d'informer, continuer d'alerter, puisque ça fait quelques mois, quelques années même, qu'on alerte de la situation du pays et comment est traité le dossier calédonien. Ça a été rappelé un petit peu tout à l'heure par rapport à la troisième consultation, le 12 décembre 2021, qui faisait suite à une série de référendums en 2018, en 2020 et en 2021. Donc, ce cycle de référendums a été prévu pour s'organiser et se dérouler tous les deux ans. Comme je le disais, 2018, 2020, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait proposé que la troisième consultation, se fasse après les élections présidentielles et après les élections législatives, pour ne pas que le dossier calédonien rentre dans la campagne et que le débat soit cristallisé. le gouvernement suivant a choisi quand même d'organiser la troisième consultation en décembre 2021. Pendant cette période, il y a une période de Covid au pays et les indépendantistes ont demandé de reporter cette troisième consultation comme ça a été le cas ici pour les élections municipales, puisqu'on ne pouvait pas faire campagne dans de bonnes conditions. Les résultats du premier et du deuxième référendum, 43% de oui à l'indépendance, 47% nous avaient mis dans une trajectoire positive. Et on pensait qu'on pouvait aller chercher la victoire à la troisième consultation. Mais on n'y a pas pu, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait cette condition Covid qui nous a empêchés, qui nous aurait empêchés, si on avait participé, de faire campagne dans de bonnes conditions. Puisqu'on avait encore de la marge, les abstentionnistes, ils avaient été identifiés dans les endroits où on vote pour les indépendantistes, notamment dans les îles, dans les quartiers nord du Grand Nouméa. Et la stratégie qui avait été adoptée, c'était de faire du porte-à-porte. Mais en raison des conditions Covid, des deuils et des coutumes kanak, on ne pouvait pas rentrer dans les maisons alors que les gens étaient... Il y avait plus de 300 morts à l'époque. Donc le gouvernement, à partir de ce moment-là, il est sorti de son couloir qui a fait, il a construit la paix depuis plus de 35 ans dans le pays. C'est-à-dire l'impartialité. L'accord de Matignon de 1988, dans son titre 1, dit que la condition d'une paix durable pour tous, c'est l'impartialité de l'État au service de tous. C'est un des rails sur lesquels ont été construits les accords de Matignon et les accords de Nouméa. L'autre rail, c'était celui du consensus. Aujourd'hui, par l'examen et le dépôt du projet de loi constitutionnelle, sans consensus local et avec une attitude partielle, le gouvernement a quand même déposé, mis dans les tuyaux ce projet de loi constitutionnelle. Et c'est sur ces risques, sur la base de ces risques, ces éléments que je vous donne aujourd'hui, qu'on a été alertés, les députés, qu'on a alertés les sénateurs, que nos responsables ont alertés depuis des mois, le gouvernement français, qui n'a pas voulu nous entendre. On ne souhaitait pas arriver dans une telle situation, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On n'a jamais appelé à l'émeute, à la violence, le CCAT. Depuis plus de 6 mois et sur le terrain, les mobilisations ont toujours été pacifiques, ont toujours été déclarées. Et pour le passage du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, le CCAT a demandé de rester mobilisé pour montrer qu'on n'était toujours pas d'accord. On n'était pas d'accord avec la méthode qui était employée et sur le dégel sans consensus local. Donc c'est vrai que derrière, il y a eu plusieurs dérapages, on va dire ça comme ça. Les choses sont montées en tension. Il y a des jeunes qui, notamment dans le Grand Nouméa, hein, qui ont commencé à faire des exactions. Bien sûr qu'on ne peut que regretter tout ce qui s'est passé. Mais en même temps, ça ne justifie pas les tirs meurtriers qui se sont produits ces derniers jours. D'ailleurs, le Haut-Cer, le commissaire, dans sa conférence de presse, il a avoué à demi-mot. Non, il a dit que clairement, les jeunes Mélanésiens, les jeunes Kanaks qui ont été tués, ils ont été tués par les milices. Il y a des milices qui sont là pour protéger leur habitation. Il y en a d'autres qui circulent en voiture et qui sont armés, qui font de la chasse à l'homme face à des jeunes qui ne sont pas armés, qui n'étaient pas armés. Maintenant, je ne sais pas comment les choses s'organisent sur le terrain. Mais voilà, le bilan, il est lourd. Hein. Le bilan, il est lourd. Déjà, un mort, la perte d'une vie, c'est déjà lourd, mais là, il y en a déjà plusieurs. Il y en a déjà plusieurs et les principaux partis du pays, notamment indépendantistes, ont lancé des appels au calme pour que sa situation se calme et soit pérennisée. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne peuvent plus se fournir en besoins primaires. Hein. Dans les magasins, le lait pour les bébés commence à manquer de denrées. Aussi pour les médicaments, pour Medipol, etc. Donc, c'est vrai que l'état d'urgence a été déclaré. Par contre, il ne faut pas que l'envoi de forces, de police ou armées vienne encore peut-être empirer la situation. Parce que les choses ils peuvent s'embraser, comme je vous disais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est juste autour du Grand Nouméa. Le Nord et les îles, ils sont mobilisés aussi, mais dans la discipline et dans le calme et à l'appel des mots d'ordre. Donc on espère que les choses ils vont se calmer. On a lancé un appel au calme, à ne pas répondre aux provocations. Aussi, on fait attention à ce qu'on dit. Enfin, je parle des responsables. On fait attention à ce qu'on dit, parce que la situation elle est grave. Les choses ils peuvent être mal perçues. Et il ne faut pas que nos paroles fassent empirer la situation qui est déjà très, très grave. Donc voilà un petit peu pour faire un petit topo de la situation sur place. On espère que les choses vont se calmer. On espère que le gouvernement a compris qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un peuple, c'est le peuple kanak, qui a toujours eu une relation conflictuelle avec la France dans son histoire. On ne peut pas déconnecter l'histoire de la Nouvelle-Calédonie avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des souffrances, des traumatismes qui sont encore aujourd'hui et qui restent. Après avoir suivi les débats à l'Assemblée nationale, on n'a pas l'impression que la majorité des députés l'aient compris. L'aient compris et... ni le gouvernement. Il reconnaît l'histoire coloniale du pays, mais qui le détache à ce qui s'est passé aujourd'hui en déclarant que les trois référendums, les Calédoniens, par trois fois, ils ont choisi de rester français, alors même que le peuple colonisé n'a pas participé. Et que la vocation de la Nouvelle-Calédonie, selon eux, c'est un statut définitif au sein de la République et que la décolonisation du pays, elle est finie. Un territoire colonisé doit être décolonisé, notamment du fait que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU depuis fin 1986. Il faut aller au bout de la décolonisation du pays. Les signaux d'alarme, ils sont là. 90% des jeunes qui sont, des personnes qui sont à la prison locale, sont kanaks. La majorité des chômeurs sont kanaks. La majorité des personnes non diplômées sont d'origine kanak. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est l'Isée locale qui avait fait une étude là-dessus. Donc pour nous, la décolonisation n'est pas finie. Et il faut établir de nouveaux liens. C'est ce que portent les indépendantistes. Établir de nouveaux liens avec la France. La Nouvelle-Calédonie ne peut pas être considérée comme si c'était la France, comme si c'était un département dans l'Hexagone. Nous, on est dans le Pacifique, on est océanien, on est mélanésien. En Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire colonisé par la France. C'est tout. C'est pas la France. Aujourd'hui, faire fi de ça, faire fi de l'histoire, c'est toucher à la dignité du peuple kanak. Et toucher à la dignité du peuple kanak, ça réveille des vieux démons qu'on n'a jamais voulu revoir dans notre pays. Parce qu'on a traversé beaucoup de difficultés dans notre pays. L'événement de 84, les différentes révoltes dans l'histoire de, en 1878, en 1917, etc. Et on ne veut plus que l'histoire bégaye. Il y a des méthodes à appliquer quand vous venez en Nouvelle-Calédonie. On est océanien. On a une façon de penser, une façon de dialoguer. Dans un temps long, peut-être qu'il ne correspond pas aux codes occidentaux. Mais faire sans nous, c'est difficile après de rattraper. Je ne vais pas finir comme ça, je vais quand même donner une lueur d'espoir, parce que malgré toutes les révoltes ou tout ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays, on a toujours su se retrouver pour le construire. Donc on espère que les choses vont se calmer pour pouvoir bâtir l'avenir, mais que nous, on soit enfin écoutés. Parce qu'on a l'impression que depuis quelques années, on n'est pas écouté. Alors, merci.
Vous semblez avoir des informations aussi sur les violences qui sont commises par ces milices. Vous pouvez en dire plus? Vous avez des informations plus précises là-dessus?
Les informations officielles du haut-commissaire, parce que les jeunes qui ont été tués, ils ont été tués par les milices. Nos jeunes, ils n'étaient pas armés. Ils ne savent plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on appelle au calme les jeunes, mais on espère que on avait des communications des partis de droite aussi. Justement, lancer un appel à tous leurs militants ou sympathisants, je ne sais pas, pour baisser un petit peu le pied. Mais on espère qu'ils seront conduits devant la justice aussi. Ça, on ne peut pas avoir une justice à deux vitesses.
Il a été question d'assignation à résidence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ouais, apparemment, on a vu l'annonce du ministre de l'Intérieur de l'Outre-mer. Hein. Donc les noms, ils n'ont pas été mentionnés. Il y en a, j'en ai lancé deux hier, ensuite cinq, et maintenant on en est à 10. Ils sont bien identifiés et qui sont recherchés. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais en tout cas, il faut faire très attention dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas que les choses s'embrasent encore plus. On ne peut pas cautionner la répression qui va venir faire enflammer encore les choses. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça.
Vous êtes d'accord avec le fait qu'un certain nombre des jeunes militants sur Nouméa, qui ont été envoyés sur Nouméa, désormais, ils échappent aux consignes, ils échappent aux mouvements, ils échappent aux vieux qui leur parlent.
Les responsables du CAT sont en train de travailler justement en ce moment, hein, pour dire aux jeunes de lever le pied. On ne peut pas prendre en otage notre propre population. C'est tout le monde qui est touché, aussi bien les indépendantistes que les non-indépendantistes. Quand il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de médicaments pour tout le monde. Quand il n'y a plus d'enrées alimentaires, il n'y en a plus pour tout le monde. C'est pour ça que là, en ce moment, ils sont en train de tourner pour refaire passer le message, parce qu'ils ont déjà fait passer le message pour demander de lever le pied. Et là, ils sont en train de refaire le tour pour faire baisser la tension.
Benjamin Koenig de l'Humanité. Je voulais vous demander une réaction par rapport aux propos qui sont tenus à la fois par Gérald Darmanin, y compris par le Haussair aussi, qui a qualifié la CCAT groupe mafieux, qui parle de voyous, voire de sauvages. C'est des choses qui... Et puis évidemment, il y a toute la question d'assignation à résidence, d'état d'urgence, d'envoi du GIGN, qui a une histoire lourde en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Je voulais savoir comment vous réagissez à ça.
Ce soir, ce matin, pour nous, le responsable de la CAT, il est intervenu dans le journal local pour expliquer un petit peu l'historique de la CAT, jusqu'où on était allé. Je crois que ça a été transmis en direct sur Outre-mer, la première, le journal de Nouvelle-Calédonie. Pas dire autre chose de ce qu'il a déjà dit, quoi.
Eh oui.
Bon, bah écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine pour une deuxième émission sur la Kanaky. Sachez qu'aujourd'hui où on en est, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un congrès du FNLKS qui s'est terminé sur une demande à Macron d'annoncer explicitement l'abandon de la réforme constitutionnelle à l'origine de la crise, puisque ce Macron a dit que non pas qu'il allait abandonner, il a dit qu'il ne passerait pas en force. Sauf que les Kanaks ne savent pas ce que ça veut dire, ne pas passer en force. Si, oui. Ils ont compris.
Ben oui, surtout qu'en plus, les forces du désordre et de l'ordre colonial sont arrivées en masse. Pour vous donner une idée, hein, y a la Légion étrangère là-haut. Hein. Donc ça reste quand même quelque chose de puissant et on en reparlera la semaine prochaine.
Ben alors.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Radio Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.lautre.net.